Mes chers concitoyens, mes chers amis, voilà que nous en sommes au quatrième jour après le second tour des élections législatives. J'avais écrit après le premier tour une déclaration qui s'intitulait « Pour une nouvelle libération » et après le second tour une nouvelle déclaration qui s'intitulait « Parler de là les faux monnayeurs et les va-t-en-guerre » en soulignant que personne n'avait affronté les intérêts de l'oligarchie financière en son cœur. Où en sommes-nous depuis? Eh bien, le président de la République vient d'écrire une lettre aux Français en les appelant à former une majorité solide. Une majorité solide, on croit rêver, après ce que lui-même a déclenché. On savait qu'Emmanuel Macron est un joueur de poker, même s'il savait jouer au poker avec nos vies. Mais on sait maintenant qu'il est mauvais joueur. Et que, mauvais joueur, il propose ce qui est impossible. Et peut-être qu'il le propose parce qu'il sait que c'est impossible, espérant régner sur encore plus de chaos. Nous avons son propre parti, ce bloc central. Bloc central qui ne sait même plus où est son centre. Les uns vont voir Marine Le Pen comme Édouard Philippe, d'autres... Il a été la voir depuis longtemps. D'autres vont voir à droite, à gauche, d'autres veulent former un groupe dissident. Bref, le bloc central éclate de tous côtés contre le nouveau Front populaire. Il est à la recherche, pas de Godot, comme dans la pièce de théâtre, mais il est à la recherche d'un Premier ministre et n'en trouve pas. Avec les uns et les autres qui se chamaillent, les socialistes disent « Nous serons le groupe le plus important, plus que les insoumis. » Parce qu'on essaye de voler ici un divers gauche, de prendre ici quelqu'un des Outre-mer, on vole des Outre-mer aux communistes. Bref, des mœurs de la 4e République, mais dans un état encore beaucoup plus grave de la situation dans laquelle on se trouve. Quant au Rassemblement national, il fait son métier, c'est-à-dire qu'il est le meilleur de lui-même quand il se tait, quand il ferme sa gueule. Parce que dans ce cas-là, les gens se font des illusions sur lui. Et aujourd'hui, Bardella se fait nommer président d'un nouveau groupe au niveau européen, et Marine Le Pen attend que l'échec nécessaire, inéluctable, d'un nouveau gouvernement, parce qu'il ne pourra pas échapper à l'austérité, à l'austérité sociale. Il ne pourra pas y échapper, parce qu'il est pris dans le filet du financier. Et elle pense qu'elle pourra bénéficier comme apparaissant comme une opposition. Donc on est dans une situation qui paraît, si on la voit à courte vue, qui paraît insoluble. Qui paraît insoluble au niveau des politiques. Parce que pour ces politiques-là, oui, je pense qu'avec eux, il n'y a pas de solution. Alors, j'espère toujours, on peut espérer toujours qu'on peut inspirer quelqu'un qui aura un sursaut de raison, mais je ne crois pas. Alors, je me penche vers les syndicalistes. Et je me penche vers Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT. Je dis, qu'est-ce qu'elle propose? En tant que syndicaliste, elle propose le SMIC à 1600 euros. C'est mal ou c'est bien? C'est bien. Les Français qui gagnent peu gagnent beaucoup trop peu. Et elle propose que tous les autres salaires progressent, parce que c'est très bien, il y a un rapport de la CGT sur ça, que si le SMIC progresse sans que les autres salaires progressent, le pouvoir d'achat des autres salaires s'abaissera. Donc elle ne le veut pas, elle veut que tous les salaires progressent. C'est très bien. Il faut des salaires élevés qui contraignent les industriels à des investissements de pointe dans les secteurs les plus avancés. Elle veut indexer les salaires sur les prix pour protéger contre l'inflation. Oui, c'est légitime. Elle veut aussi des services publics, qu'on retrouve le service public, qu'on retrouve dans l'éducation, l'école, qu'on retrouve la recherche, qu'on retrouve la santé, les EHPAD, les hôpitaux. C'est tout à fait légitime et nécessaire. Et enfin, elle veut abolir la réforme des retraites, qui a été un outrage, indépendamment de la valeur ou pas de la valeur de la chose, un outrage infligé aux travailleurs. Alors, on se dit, voilà, cela se comprendrait. Mais il faut bien voir autre chose. C'est que la plupart de ces syndicalistes sont passés par consentement sous les fauches codines des institutions européennes. Et qu'il y a pour eux tous, y compris même pour la CGT, cette vision d'une Europe sociale, le fantasme d'une Europe sociale. Je dirais que beaucoup d'entre eux sont passés par l'étui. C'est une jolie façon de dire les choses. Une chose terrible, l'étui, c'est l'European Trade Union Institute, qui a été institué à l'échelle européenne pour former, c'est-à-dire pour déformer les syndicalistes et pour préparer les fonctionnaires européens et pour créer une passerelle entre syndicalistes pour qu'ils deviennent fonctionnaires européens. Donc même les syndicalistes sont pris dans ce piège-là. Et si on regarde en perspective, personne ne conteste cette mainmise de l'oligarchie financière sur la politique. Souvent, on ne le comprend pas comme cela, mais on voit bien, et beaucoup commencent à le pressentir ou à le sentir dans le peuple, que cette oligarchie financière a intérêt à la guerre, parce qu'elle a produit une bulle de tout, dans tous les secteurs financiers de spéculation, et elle a besoin d'aller piller ailleurs qu'en elle-même. D'où la guerre, d'où l'économie de guerre de M. Macron. D'où un système qui porte en lui la production d'armes, la cybernétique, le numérique, l'intelligence artificielle, le tout associé à la production d'armes, et un argent qui fait de l'argent avec de l'argent. Donc c'est un système qui n'est pas viable. Et tous en sont prisonniers, parce que personne ne le conteste. Tous sont prisonniers de cette organisation, tous par consentement implicite ou explicite, collaborateurs ou aveugles. Tous. Et ce que j'avais dénoncé dans ma présidentielle de 1995, ce que j'avais dénoncé, on en subit toutes les conséquences aujourd'hui.
Il y a un problème fondamental qui est celui de ce cancer financier qui ronge l'économie mondiale et qu'il faut faire une autre politique, une politique de croissance, de développement commun, à l'intérieur de la France, vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Afrique.
Et je représente de ce point de vue, avec mes amis, avec tous ceux qui ont pensé dans cette direction, une légitimité par rapport à la nécessité politique d'aujourd'hui. Alors, beaucoup se demandent dans ce cas-là, c'est la question qu'on se pose, hein, que j'entends partout, mais où va l'argent? Où va l'argent? Bruno Le Maire a endetté la France entre 2017 et aujourd'hui de plus de 1000 milliards. Où est passé cet argent? Bien, c'est d'abord, c'est de la fausse monnaie. C'est l'argent qui ne va pas à la production, qui ne va pas au secteur public, qui ne va pas au service public. C'est l'argent qui va à l'argent pour maintenir des revenus. Et on joue avec les taux d'intérêt pour le faire. C'est ce qui s'appelle une économie monétaire qui est antiproductive. Et je me bats, moi, pour une économie de la production réelle de biens. Ensuite, évidemment, comme il y a des conséquences sociales à cette politique-là, on compense, on donne des subventions aux entreprises. Alors, c'est les plus grosses, du CAC 40, qui en profitent, mais ça permet de survivre aux PME, aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries. Et on donne des allocs pour ceux qui ont peine à vivre, qui sont dans le survivre. Et on essaye de cette façon de maintenir les choses. Donc, de l'argent qui va à l'argent, de la fausse monnaie, des allocs, des subventions. Et enfin, lorsqu'on cherche la ressource, les sociétés du CAC 40, qui soi-disant sont françaises, elles ont peut-être leur siège en France, mais BlackRock, Vanguard, State Street, toutes ces organisations-là, et d'autres encore, mais ce sont les principales, qui détiennent entre 2 et 10% de ces sociétés-là, donc, qui ne sont plus réellement françaises en ce qui concerne l'influence au sein de cette société, et en outre, ces sociétés font 80% de leur chiffre d'affaires, et sans doute plus de leurs bénéfices, à l'extérieur de la France. Donc voilà ce qu'est la véritable délocalisation du financier. Et les grandes fortunes, prendre aux riches. Ben, les riches, ils sont partis. Ils sont déjà partis. Ils ont placé leur argent grâce à l'acte unique de 1986, que j'étais pratiquement le seul à condamner, libre circulation des capitaux, on place ces capitaux là où il y a le moins de risques fiscaux et là où on est le plus tranquille face aux autorités. Donc, on accepte, et même on l'encourage, la désindustrialisation de la France, ces entreprises sans usine dont on parlait à une époque. Alors, voilà où nous en sommes. Alors, évidemment, réagir, c'est dire toutes ces exigences des syndicats sont justes. Mais comment assurer qu'elles puissent être tenues? Parce que dans la configuration actuelle, ces promesses ne peuvent pas être tenues. Parce qu'on n'a pas le pouvoir d'y répondre. On n'a pas le pouvoir de les tenir. Il est ailleurs, ce pouvoir. Alors, il faut, au niveau de là où les choses se décident, avoir une autre politique. Et c'est ça, essentiellement, que nous défendons en France depuis plus de 30 ans, depuis l'élection de 1995 au moins, très clairement en ce qui me concerne. Pour réécouter ce que j'ai dit à cette époque-là, cela confirme tout à fait le diagnostic que je faisais. Qu'est-ce qui arrive? C'est que, peu à peu dans le monde, s'élève un front de résistance. Ce sont les BRICS, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est l'Union économique eurasiatique, c'est tous ces gens qui ont une idée simple derrière ce qu'ils font, ils ne veulent plus être pillés par le système financier. Donc, on peut dire, c'est contre le colonialisme, c'est contre l'impérialisme, c'est pour les cinq principes que Chuang Lai avait mis en œuvre de coexistence pacifique, c'est pour les 10 principes de Bandung, des non-alignés, c'est pour le groupe des 77, aujourd'hui, c'est pour toutes ces forces qui veulent quelque chose d'autre. Oh, c'est pas des gens qui pensent tous exactement la même chose, qui ont tous exactement le même régime. On dira dans les pays occidentaux, c'est n'importe quoi, ce sud global. Eh ben non. C'est un basculement du monde vers le sud et vers l'est. Et la France devrait en être partie. Et c'est pour cela que nous nous battons. Et ce que nous espérions, c'est que dans la situation actuelle de chaos et de confusion, sorte quelque chose de nouveau en France qui rende possible la présence de la France à Kazan, 22-24 octobre, où se réunissent les BRICS pour aller dans cette direction. Il n'y a pas de miracle, ça ne se fera pas à Kazan d'un seul coup, mais il y aura un mouvement, il y aura une dynamique, et la France devrait en être. Elle n'en est pas, elle est même dans le camp opposé. Pensez-le bien, Macron, en rédigeant sa lettre aux Français, a terminé de le faire dans l'avion qui le menait à Washington, à la conférence de l'OTAN. C'est ça qui est significatif. Cette majorité qu'il appelle en France, dont il nous appelle à constituer, cette majorité solide, comme il dit, c'est solidement pour l'OTAN, c'est solidement pour l'oligarchie financière, voilà ce qu'il veut. Je ne sais pas s'il en est tout à fait conscient, probablement il pense que ses propres mérites lui valeraient cette majorité solide, mais je ne crois pas, je crois qu'il est assez intelligent pour comprendre qui il sert et quels intérêts il sert. Donc on en est là. Alors comment, en France, transcrire, transmettre cette idée? Il faut repenser à 1945-46, à la bataille pour la production qu'il y avait alors. Alors c'est pas les mêmes conditions, c'est pas pareil aujourd'hui, elle sera aujourd'hui tout aussi difficile, et peut-être davantage. Mais cette bataille pour la production, c'était un accord entre les principaux partis, notamment les gaullistes d'alors et le Parti communiste. Thorez avait dit que ce qui était révolutionnaire, c'est la possibilité de produire. Il était soutenu en cela par les communistes soviétiques, qui pensaient qu'il était essentiel d'avoir des partenaires pour pouvoir continuer, des partenaires en Europe. Mais c'est la production, c'est la véritable entreprise. C'est celui qui est à la tête de l'entreprise. Évidemment, tout n'est pas parfait, il y a une oppression sociale à l'intérieur de l'entreprise, peut-être, mais on est pour la production, en tout cas. Et c'est Michelin, c'est Peugeot à l'époque, c'est pas du tout les banques aujourd'hui, les grandes banques, les banques d'affaires, hein. Je ne parle pas de la banque du coin qui gère vos dépôts et vos crédits, non. Les grandes banques, à l'échelle internationale, et les sociétés de gestion, BlackRock, etc., eux traitent les êtres humains comme des pions. Vous voyez, même Michelin aujourd'hui est obligé de dire « il faut faire un peu plus de SMIC, il faut faire un salaire décent, Eux non, eux s'en fichent. Et ce capitalisme financier est prédateur, destructeur, pas seulement à l'échelle internationale, mais chez nous, où il encourage toutes sortes de dévoiements. Pourquoi pensez-vous qu'il y a le trafic de drogue en France? Pourquoi pensez-vous qu'il y a une telle consommation de drogue? Pourquoi pensez-vous qu'on fascine nos enfants, et nos petits-enfants, sur les écrans? C'est parce qu'on veut créer une accoutumance, un service, un système. Alors, il y a les armes de la séduction. Il y a un communiste qui s'appelait Klaus Kahr, qui l'avait bien décrit il y a une trentaine d'années. Il y a les armes de l'exploitation à l'intérieur des entreprises. Le niveau bas du SMIC actuel en est un exemple. 1 390 €, qu'est-ce que c'est? Il y a l'exclusion. On exclut de plus en plus des gens dans des niches à pauvreté. Des gens qui survivent à peine. Certains disent, il faut les mettre dans une économie et dans une vision du virtuel, et là, ils tiendront tranquilles. C'est-à-dire qu'ils seront dans la misère, mais pourront avoir un portable sur lequel regarder des images. Et enfin, il y a aujourd'hui la répression. Et là, on y vient. Et dans cette rentrée, on rentre dans cette forme de répression. On l'a vu avec les gilets jaunes, qui devient physique. Et là, ça pourrait très bien devenir. Alors, il ne faut pas calculer sur ce que cette répression amènerait de bon. Pourquoi? Ou de mauvais? Ou que, réagissant, le peuple dirait « On refuse cette répression, donc on bâtit quelque chose de meilleur. » Ben non, pourquoi? Parce qu'on a détruit la base de l'éducation. On a détruit l'éducation, qui est l'éducation des pouvoirs créateurs de l'être humain, à l'école. On a détruit et on formate au lieu de construire. On formate à servir quelque chose, à servir le système qui est en place. Ou alors, certains, on les conduit dans des canaux, des orientations, des filières, qui sont des filières où ils seront le bas. Ceux qui appliqueront les codes définis par le haut. Et évidemment que dans cette école-là, avec cette forme-là, on ne trouve pas de fraternité. On ne trouve pas d'idées pour le futur. Et que notre tâche, évidemment, c'est ce peuple qui est non seulement opprimé, mais qui aujourd'hui subit un véritable hargne des élites en place. Et lui-même est décontenancé, il est un peu perdu. Eh bien, il faut lui donner la bonne partition. Je vais écrire un livre qui s'appellera « Le cri du peuple ». Mais c'est répondre au cri du peuple, c'est-à-dire d'être capable de lui montrer la nature réelle de ce qu'il opprime et une partition qu'il jouera à sa façon pour aller dans la direction d'un système qui libère. C'est pour ça que je parlais de la nouvelle libération de la France. Et aujourd'hui, nous sommes à ce moment de l'histoire où, ayant été nous-mêmes lanceurs d'alerte, ayant été moi-même lanceur d'alerte, j'espère qu'on deviendra, à travers, partiellement peut-être, certaines forces existantes qui se rebelleront devant l'extrême dans lequel on est arrivé et qu'on inspirera, ou plus généralement à travers des groupes politiques que nous organiserons dans notre pays et dans le monde, comme notre coalition internationale pour la paix, qui pourront écrire cette partition pour l'avenir. Et c'est là que le faire à l'intérieur de la France, avec des gens dans tous les secteurs, ils peuvent avoir des idées différentes, mais tous seront pour cette résistance et tous seront pour une libération. Ça s'appelait à un autre moment de l'histoire la France libre, ça s'appelait la résistance, ça s'appelle le programme du Conseil national de la résistance. Dans des termes entièrement nouveaux, il faut reconstituer cet état d'esprit. Et c'est notre combat dans la situation, après ce premier tour, après ce deuxième tour, et dans cette confusion et ce chaos qui est en train de s'installer. Pour aller dans le sens que ce que, justement et honnêtement, veulent tous ceux qui sont en relation avec le monde du travail, mais il faut leur donner un sens politique qui permette que les promesses dues soient tenues. C'est notre combat.